Radio Social Club. Frédéric Taddeï.
Dans le cadre de la Semaine de la langue française, je reçois Julien Barret qui publie « Tu parles bien la France », la pianiste Hélène Tisman qui sort un album consacré à Maurice Ravel intitulé « Des antiques aux démons » et l'historien Alexandre Jevakov. Il va nous raconter la guerre civile russe qui fit 10 millions de victimes entre 1917 et 1920. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nouveau depuis le début des années 2000? Vous pouvez me répondre sur la langue française, bien sûr, on va en parler, mais aussi sur les humoristes, puisque vous êtes le fondateur du site critiquecomique.com. Donc, vous allez voir constamment des spectacles d'humoristes dont vous rapportez les exploits ou les méfaits.
Exactement.
Alors, est-ce qu'ils ont changé, les humoristes?
Oui, on parle beaucoup du stand-up qui est arrivé peut-être autour de 2004 avec Jamel,
Thomas. Même avant, vous trouvez 2004? Moi, j'aurais dit plus tôt même.
Thomas Sisley a fait un spectacle qui s'appelait stand-up précisément, et Mustapha El Atrassi est arrivé aussi, c'est aux États-Unis arrivé bien avant. Après, on peut poursuivre la réflexion et dire que les chansonniers de la fin du 19e siècle au Chat Noir, ou ceux du caveau de la République, ou ceux des deux ânes, sont des stand-uppers, mais des vieux stand-uppers un peu ringards. Et du point de vue de la langue française, parallèlement au stand-up, le slam arrivant, étant popularisé en France à la fin des années 90, donc j'espère que ça rentre en compte dans la considération des années 2000, c'est un nouveau mode d'expression de la poésie, partagé par tous, et donc une forme de démocratisation de la parole, disons, poétique, au sens où la parole poétique serait changée, avec des influences des codes du rap et du stand-up, et tout ça crée une langue qui est différente, qui où la syntaxe parfois est changée, avec une expression comme « rien que ça tire, rien qui fait beau », qui est calquée sur la syntaxe de l'arabe, et peut-être la disparition du subjonctif présent à moyen terme.
Et pour une pianiste comme Hélène Tisman?
Alors, vous avez combien de temps? Combien de temps devant vous pour répondre à la question? En un mot, ce mot qui m'est venu, c'est la conscience. Mais j'ai du mal à penser à votre question que dans le domaine de la musique, parce que justement, je me sens pas
seulement
que
musicienne.
Voilà.
Raison, bien
et
sûr.
J'ai pensé principalement quel est le changement entre le 20e et le 21e siècle. Pour moi, c'est la conscience qui arrive au 21e siècle. Autant le 20e siècle, c'était plus le comment vivre et donc comment faire les choses. Autant au 21e siècle, j'ai l'impression qu'on se pose plus la question du pourquoi. En tout cas, en tant qu'artiste, c'est la question qui me vient. Et c'est ça qui fait que ça prend des formes nouvelles, notamment par exemple dans le choix de toutes choses qu'on présente, c'est-à-dire dans la forme, dans le évidemment le label, donc le label Clart chez qui j'ai enregistré récemment, qui est totalement différent, un label indépendant.
On dit qu'il est équitable, j'ai reçu un de ses fondateurs.
C'est ce que j'allais dire, et c'est exactement ça, éthique, équitable, quelque chose d'autosuffisant, géré par des musiciens eux-mêmes, le choix du programme qui est entièrement venu de moi, qui moi-même écrit un texte, qui me pose forcément la question de savoir pourquoi je choisis d'enregistrer des œuvres qui ont déjà été tellement de fois enregistrées avant.
J'allais vous poser la question tout à l'heure d'ailleurs,
voilà.
les œuvres de Ravel, Bertrand Chamaillou est venu dans cette émission
voilà.
Il a lui-même enregistré les siennes, Vanessa Wagner,
oui,
là
tout
aussi.
À fait, des grands amis aussi. Mais exactement, et donc on ne peut plus faire comme si au XXe siècle on pouvait encore rêver de cette espèce d'image du soliste qui attend dans sa tour d'ivoire que les grands labels viennent le chercher pour lui demander d'enregistrer telle ou telle œuvre du répertoire très connue, et voilà. Je pense qu'au XXIe siècle, ça n'est plus du tout le cas, et c'est écho avec tout le reste de la société. Donc c'est plutôt moi qui choisis en tant qu'artiste qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux apporter, pourquoi on fait ça maintenant, pourquoi on vit presque. C'est parce que dans tous les domaines, ça pose cette question-là.
Eh bien, vous nous répondrez tout à l'heure en ce qui concerne Ravel. Et vous, Alexandre Jevakov, alors qu'est-ce qu'on fait de nouveau pour un historien?
Je vais d'abord répondre, pas comme historien, mais comme footballeur et supporter de football. La France n'a plus gagné de titres depuis le début du XXIe siècle, ce qui naturellement me chagrine beaucoup.
Mais enfin, elle n'en avait pas gagné avant 1998.
Donc. Oui, mais voilà, mais le XXe siècle, c'était glorieusement terminé avec ce titre mondial puis européen. Alors, pour revenir à la question, puisque vous m'avez gentillesse de m'inviter comme historien, il y a une extraordinaire appétence pour l'histoire depuis le début du siècle. Beaucoup d'émissions, à commencer par cette maison avec Franck Ferrand, mais beaucoup de titres, beaucoup de magazines, beaucoup de documentaires, beaucoup, des chaînes spécialisées.
C'est fou ce qu'on est tourné vers le passé depuis qu'on
oui,
est au XXIe siècle.
Alors, je suppose qu'il y a des gens très compétents et très intelligents qui auront sûrement tout un tas d'explications sur cette espèce de retour, l'inversion des facteurs, si on peut dire, et avec une histoire qui est à la fois très consciente, très consensuel, c'est-à-dire les gens recherchent des choses qui sont partagées, et en même temps, j'ai l'impression que l'histoire devient le dernier refuge de l'idéologie. C'est-à-dire que là où, dans beaucoup de domaines, y compris dans la politique, on a l'impression que l'écart entre la droite et la gauche se distingue de moins en moins, de plus en plus difficilement, chez les historiens, il y a encore une affirmation idéologique. Et pour ne prendre qu'un exemple récent, les deux livres d'histoire qui se font le mieux actuellement, l'histoire de France, l'histoire mondiale de la France, n'est pas franchement de Patrick Boucheron collectif, n'est pas franchement un livre de droite. Et le livre sur Napoléon et De Gaulle n'est pas franchement un livre de gauche. Donc il y a effectivement une espèce de juxtaposition idéologique et à côté de ça, une vision très consensuelle de l'histoire.
Et on verra que la guerre civile russe dont vous êtes l'auteur n'est pas franchement un livre très pro-bolchevique.
Non, mais j'essaie d'être aussi objectif que possible dans mes visions.
Si l'on passe quand on s'appelle Gevakov et qu'on est descendant des princes Gevakov qui ont quitté la Russie à l'époque.
On peut être objectif quand même, tout en étant subjectif.
Europe 1 Social Club
revient dans un instant.
21h, 22h.
Europe 1 Social Club.
On fait l'appel sur Europe 1. Les musiciens maliens, joueurs de kora, cet instrument entre la harpe et le luth, le père et le fils, Toumani et Sidiki Diabaté. Il y a aussi la chanteuse Fatoumata Diawara et le rappeur Oxmo Puccino, tous deux également maliens. Et tout ce joli monde est rassemblé autour de Mathieu Chédid. Vous avez reconnu sa voix, un collectif d'artistes inédit baptisé L'Amomalie. L'album sortira le 7 avril. La tournée débutera, elle, le 1er juin à Lyon. Et L'Amomalie sera à l'affiche du festival Les Vieilles Charrues cet été le 13 juillet. Un événement européen du 13 au dimanche 16 juillet à Carré en Bretagne.
Europe 1 Social Club, 21h, 22h. Frédéric Taddeï.
C'est donc la semaine de la langue française. On va donc commencer par votre livre, Julien Barré, Tu parles bien la France, qui vient de paraître chez l'Harmattan. C'est un essai sur la langue française d'aujourd'hui. Alors, il y a une langue française d'aujourd'hui, au grand dam des puristes de la langue française, puisque, comme vous le rappelez dans ce livre, le français est une langue bourgeoise, qui n'aime pas les barbarismes, ni les fautes de français, ni les fautes d'orthographe. Et donc, une langue qui n'a guère évolué depuis Voltaire. Vous exagérez un peu, elle a quand même évolué depuis Voltaire. Mais enfin... La langue écrite, oui, on tient beaucoup à ce qu'elle n'évolue pas, à ce qu'elle ne change pas, à ce qu'elle reste comme elle a toujours été. Vous en souffrez ?
Ah non, je suis ravi de la situation. De toute façon, les linguistes, en fait, je suis une sorte de vulgarisateur du point de vue des linguistes qui n'est pas entendu. 90% des gens à la louche ont un regard, et en particulier les plus jeunes, très conservateur sur le français, refusant qu'il évolue. Alors il y a eu récemment une réforme...
La réforme de l'orthographe.
Dont on a parlé parce que les manuels de livres scolaires allaient l'utiliser à la rentrée de septembre dernier. Mais elle est davantage utilisée, cette réforme est admise dans d'autres pays francophones comme la Belgique, la Suisse et le Québec.
Que chez nous.
Oui, en particulier les plus jeunes d'entre nous, qui font des fautes qui sont considérées comme la norme relativement à cette réforme, sont opposées. En particulier, par exemple, si on prend l'exemple de Nénuphar, tout le monde s'enflamme.
Normalement, on pourrait l'écrire avec un F depuis la réforme.
Nénuphar, non seulement on pourrait, mais on devrait l'écrire avec un F. Proust l'écrit avec un F. Nénuphar n'a aucune racine hellénique. Un PH a été ajouté en 1935 par un académicien qui devait être hellénophile ou qui avait bu trop de vin, je sais pas. Et ce mot est un mot qui vient de l'arabe ou du perse et qui prend un F étymologiquement. Et là, c'est une erreur. Après, beaucoup de mots, on leur a ajouté des racines artificiellement grecques ou latines pour donner ces lettres de noblesse en français et en faire une langue égale.
Mais c'est vrai que la plupart des gens n'ont pas remarqué que depuis 1990, on pourrait supprimer bon nombre de traits d'union, portefeuille, on l'a à peu près écrit, on l'écrit assez régulièrement maintenant sans traits d'union. Mais il y a d'autres porte-bouteille par exemple, on continue de l'écrire avec le trait d'union.
Oui, la langue française est considérée comme quelque chose de sacré, avec un usage unique qu'on veut muséifier, ça finit par devenir un musée poussiéreux. En réalité, la langue évolue et il y a plusieurs usages qui sont possibles. Et les dictionnaires, les différents dictionnaires n'ont pas la même vision de la langue, n'écrivent pas les mots de la même façon. Il y a 60 000 mots en général, disons, dans un Larousse ou un Robert. Et vous prenez le Larousse et le Robert, il va y avoir peut-être 5 000, 10 000 mots qui soit ne s'écrivent pas pareil, soit ce qui est polysémique sera homonymique, soit des mots qui n'apparaîtront pas du tout. Le dictionnaire même, qui est censé être pas le greffier de l'usage comme serait le dictionnaire de l'Académie française, qui a beaucoup de mal à sortir puisqu'ils sont c'est très lent, ces dictionnaires qui sont censés être la règle n'ont pas la même vision de la langue. Alors comment on pourrait édicter une langue qui soit parfaitement immuable et identique pour tous.
Julien Barret, vous rappelez que le français est la sixième langue parlée dans le monde actuellement, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol, l'hindi et l'arabe. Le russe est derrière nous. J'aurais pensé que le russe était parlé par... après tout, ils ont quand même occupé assez longuement une bonne partie de l'Europe de l'Est. Donc je pensais que le russe était très très parlé. Visiblement non. Le français est parlé donc par 274 millions de personnes aujourd'hui. Ça pourrait monter. Hein. On s'attend à ce qu'il soit parlé par 760 millions en 2060, puisqu'il y a une très grosse croissance démographique en Afrique. Et cette langue française, dont on est si fier, si on ne veut pas qu'elle change, c'est parce qu'on est persuadé qu'elle serait la langue de la précision et de la clarté. Rien ne pourrait être plus précis que ce qui est expliqué en français. Vous n'êtes pas d'accord ?
Non, en fait, chaque locuteur a sa propre langue qui est plus claire pour lui que pour les autres. Alors nous, qui sommes des locuteurs français, on trouve le français plus clair que les autres. Mais cette notion de pureté, qui est une notion assez intéressante, qu'il est intéressant d'interroger, puisque avec la pureté, on peut aller très loin. Considérons simplement la pureté de la race, mais la pureté de la langue est une idée, une idéologie de la langue qui est née au XVIIe siècle avec Vaugelas. Boileau cite et rend hommage à Malherbe, enfin Malherbe vint. Alors vous connaissez, c'est très connu ce passage, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et il rend hommage à cette pureté du français qui est un fil rouge qu'on peut suivre comme ça dans l'histoire du français. Le discours de Rivarol sur l'universalité de la langue française en 1784, il avait répondu à un concours de l'Académie de Berlin. Et puis, il avait dit, notamment, c'est au goût dédaigneux, c'est à l'ennui d'un peuple d'oisifs que l'art a dû ses progrès et ses finesses. Racine et Boileau parlent un langage parfait dans ses formes, sans mélange, toujours idéal, toujours étrangers au peuple qui les environne. Donc on a non seulement une notion de pureté du langage, mais qui s'accompagne d'une notion de pureté, je n'irai pas jusqu'à dire du sang, et alors on reviendra
en
sur...
Tout cas, étanche. En tout cas étanche, les peuples voisins n'étant pas capables ni de nous comprendre, ni de rivaliser. C'est ça qu'il y a dans l'idée de la pureté de la langue française ?
Et cette idée, oui. Et cette idée est très réductrice, puisque toute une littérature comme celle de Pérec... même de Rimbaud serait totalement exclu d'une conception puriste de la langue qui n'accepte pas les emprunts, qui n'accepte pas la polysémie. Donc c'est toute une conception de la langue française qui, c'est ma thèse, mais que je reprends à Claude Duneton qui avait écrit un pamphlet « Parler croquant » en 73, dit que c'est une langue bourgeoise, qu'on a une sorte d'inconscient linguistique intégré par tous les locuteurs, aussi bien aristocrates, bourgeois, que Kaira, que ce que vous voulez. Quand j'étais petit à l'école, j'entendais souvent un gosse d'immigré dire à l'autre « Toi, tu parles bien la France » parce qu'il avait commis une faute.
D'où le titre de votre livre « Tu parles bien la France ». Le parler parisien, d'ailleurs, vous l'évoquez dans ce livre, Julien Barret, il est toujours différent de la province. Il y a toujours eu un argot de la capitale et vous dites que ça a toujours dépendu de l'origine sociale.
Ouais. Il a évolué, le Parisien de Gabin, des films d'Audiard. Aujourd'hui, le Parisien, c'est aussi le Parisien de la banlieue qui inclut, tout le monde dit kiffé, c'est un mot arabe qui vient de kiff. Il y a des apports qui proviennent aussi bien du breton et de l'alsacien, du gitan et du créole. Et beaucoup de gens s'offusquent de ces apports et de ces apports qui viennent de l'extérieur, en premier lieu de l'américain. Et aussi de l'arabe.
Oui, l'américain est quand même très très présent également. Il y a aussi le jargon administratif, abstrait, pédant, celui des rapports de police.
Bah, de préférence, ça a été expliqué par Robert Beauvais, qui était un satiriste, enfin, un pamphlétaire des années 60 qui disait qu'il appelle ça le syndrome du garde champêtre. Le garde champêtre va de préférence utiliser un mot de quatre syllabes préférentiellement, je dirais.
Encore aujourd'hui, on interviewe sur Europe 1 un commissaire de police ou un préfet de police,
l'individu a été interpellé suite à des revendications.
Et c'est rien comparé au notaire encore.
C'est Hélène Tisman qui visiblement a essayé d'acheter une maison récemment.
On assoit son autorité morale et intellectuelle. Parfois, quand elle fait défaut, en s'appuyant sur un vocabulaire pompeux, riche, avec des syllabes nombreuses.
Vous recommandez d'ailleurs dans ce livre, Julien Barré, de se méfier des fautes de français, parce qu'elles n'en sont pas toujours, en fait. Vous donnez quelques exemples, celui de courbaturé, par exemple. Moi, je suis le genre à dire non, on dit pas courbaturé, on dit courbattu. Enfin, je le dis pas à mes invités, hein, mais je le pense.
Vous corrigez pas tous vos invités.
Non, jamais.
Mais à l'intérieur, vous dites, ah, il y a eu une faute.
Mais je me dis, voilà, ça ne se dit pas. Et vous dites, bah si, ça se dit, justement. De même, pour autant pour moi que les gens écrivent A-U-T-A-N-T, et on les reprend en leur disant non, c'est autant A-U plus loin T-E-M-P-S.
C'est complètement fou, là. Sur Internet, les internautes se déchaînent. Si vous voyez n'importe quel article où quelqu'un fait une faute, qu'il soit ou non journaliste, ensuite, il y a des commentaires qui corrigent les fautes. On est toujours en train de se corriger les uns les autres, mais on n'en a jamais fini. On peut jamais arriver à un point tel que on va parler 10 minutes consécutivement comme ça sans faire la moindre faute. La langue française est tellement complexe que personne n'est capable de la parler correctement et elle procède d'une histoire qu'on connaît pas. On s'attache à un état figé aujourd'hui de la langue pour faire des dictées, etc. sans trop s'intéresser à la façon dont elle s'est constituée.
Tu parles bien la France, un essai sur la langue française d'aujourd'hui. C'est signé Julien Barré et c'est paru chez l'Harmattan.
Europe 1 Social Club.
Hélène Tisman, mais avant de parler de votre nouvel album « Des antiques aux démons » qui est consacré à Maurice Ravel, je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait. C'est un extrait de Gaspard de la Nuit. Gaspard de la Nuit, c'est 1908,
ouais.
1909. La Première Guerre mondiale va éclater dans 5 ans.
Absolument.
On écoute tout de suite votre interprétation de Gaspard de la Nuit.
La pianiste Hélène Tisman, invitée de Frédéric Taddeï sur Europe 1, elle consacre un disque à Maurice Ravel, Des Antiques aux Démons, et c'était Gaspard de la Nuit.
Europe 1 Social Club, 21h-22h, Frédéric Taddeï.
Hélène Tisman, vous consacrez donc votre nouvel album à Maurice Ravel. Vous l'avez intitulé « Des antiques aux démons ». Il vient de sortir sur le label Clart. Alors, pourquoi avoir choisi Maurice Ravel et pourquoi ces morceaux, qu'on le faisait remarquer tout à l'heure, si nombreux musiciens en France ont enregistré récemment, je pensais à Vanessa Wagner ou à Bertrand Chamaillou, parce qu'ils sont venus dans cette émission,
oui,
mais il y en a sans doute
d'autres.
Oui, c'est
vrai que, bien sûr, c'est de toute façon le compositeur qui fascine absolument tout un chacun un pianiste. Après, peut-être j'allais dire que c'est un peu moins enregistré malgré tout que les 4 ballades de Chopin que j'ai fait précédemment, où là il y avait encore plus la question du pourquoi. J'avais ces œuvres-là que je voulais absolument. Un disque, c'est aussi, il faut d'abord, c'est quelque chose de cœur. Il faut que ça, qu'il y ait une raison. La meilleure raison, c'est que ça vienne du cœur, que ce soit une nécessité, qu'on sent que ces œuvres-là, on veut les enregistrer. Ensuite, on se pose la question comment on va le présenter, c'est-à-dire est-ce que faire un intégral Ravel, comme c'est souvent fait, justement, ce côté un peu encyclopédique, moi, ne m'attire pas beaucoup. Surtout en disque, j'aime beaucoup raconter une histoire, préciser quel est mon éclairage dessus. Et pour ce faire, j'aime bien déjà que les œuvres s'enchaînent les unes aux autres selon mon scénario, en quelque sorte, qu'il y a un acheminement et que l'auditeur puisse l'écouter vraiment du début à la fin, le disque, et non pas se dire je vais écouter telle plage, voilà, et je vais me cantonner à cette plage 6. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, donc je jouais beaucoup ces œuvres de Ravel que j'avais très envie, je sentais qu'il y avait quelque chose là à dire de différent, c'est pas plus ou moins, mieux ou moins bien, juste différent. Heureusement, il y a autant d'interprétations possibles que de pianistes sur Terre. Et donc, Après, je me suis rendu compte, j'étais déjà fascinée par Ravel, sa vie, etc., son influence des classiques, de cette architecture classique, ce rapport à, oui, à cette précision-là, et en même temps, la chose la plus folle, la plus déjantée, son inspiration à travers le jazz, à travers plusieurs modes, c'est-à-dire mélanger majeur, mineur, enfin, plusieurs tonalités, des choses qui ne se faisaient pas tellement avant.
Il est considéré, d'ailleurs, après la mort de Debussy, il est considéré comme le plus grand compositeur vivant, Maurice Ravel, à l'époque.
Oui, oui, et surtout, j'allais dire le plus moderne, souvent, on le dit, le plus moderne des classiques. Il y a ce côté-là absolument éternel, qui, pour moi, est encore, peut-être encore plus éternel, universel, que Debussy. Il y a quelque chose de quasiment intemporel. Ses œuvres sont extrêmement condensées, concises. En deux pages de Ravel, vous avez 10 pages chez Beethoven. Donc, par exemple, rien que pour l'apprendre, c'est énormément plus de temps, plus de précision.
Je vous propose qu'on écoute un extrait avant de continuer de parler de Ravel, d'un de ses tubes, on va dire. Non, c'est pas le boléro de Ravel, qui détestait d'ailleurs, mais qui a été le plus gros succès, je crois, de la vente d'un musicien français dans le monde pendant très très longtemps, le boléro de Ravel. Non, plutôt Pavane pour une infante défunte qu'il a composé en 1899, si je me souviens bien.
Il a été orchestré après au XXe siècle.
Plus tard, mais pour orchestre, mais à l'époque où il l'a composé pour piano.
Il faut savoir que Ravel pensait toujours à l'orchestre quand il composait toutes ses pièces pour orchestre. Il les composait d'abord au piano. Donc il y a un côté aussi très coloriage, c'est-à-dire que je pense qu'il voyait déjà à l'avance quel timbre ça donnerait à l'orchestre.
Alors moi je préfère quand c'est joué au piano, et ça tombe bien, puisque vous la jouez uniquement au piano, et c'est magnifique. On n'en écoute qu'un extrait parce que c'est très long, mais c'est merveilleux.
Merci.
Hélène Tisman, on n'ira pas jusqu'au bout, bien que j'en ai envie, de Pavane pour une infante défunte. Je disais tout à l'heure, il était considéré, après la Première Guerre mondiale, après la mort de Debussy en 1918, comme le plus grand compositeur vivant. Il était célèbre en Europe et en Amérique.
De son vivant, ce qui est assez exceptionnel à cette époque, vraiment. De son vivant, il a vu ça, il a vu des salles, des standing ovations aux États-Unis, partout dans le monde, ce qui est quand même pas évident à cette époque-là.
Mais alors pourquoi l'avez-vous intitulé Des antiques aux démons, cet album?
Et donc, pour revenir à ce que je disais, il y a son, j'ai noté à quel point il y avait son inspiration du classique, des formes classiques, tout est très classique. Et aussi cette forme d'antique de l'époque, c'est-à-dire une certaine mythologie, celle de, vous avez pu voir peut-être les esquisses de Léon Bakst à l'Opéra Garnier récemment, cette sorte de mythologie qui est dépeinte un peu féerique, et ça va jusqu'au cataclysme de la valse et de cette chose finalement très sombre qui passe par Gaspard de la Nuit, qui est très très sombre et en même temps très très fantastique.
Vous êtes en train de nous dire qu'au fond, il a la réputation d'être léger.
En étant extrêmement léger, mais c'est pas de la musique.
Et en fait,
c'est
il est grave
Debussy.
Et profond, voilà. Maurice Ravel.
Merci, il est grave et profond. Et dans cette profondeur et dans cette chose très grave, il y a la légèreté. C'est pour ça qu'il est extrêmement concis, que tout est dit. En fait, il n'y a pas un mot, j'allais dire, il n'y a pas une note qui soit en trop.
Un mot, Julien Barré.
Juste dire un mot du Gaspard de la Nuit, qui est revendiqué dans l'histoire de la littérature française comme la première œuvre de poème en prose, avant Baudelaire avec ses petits poèmes en prose, qui fait référence dans la préface et qui est une façon, du point de vue des romantiques, de faire revivre tout le côté flamboyant et noir du Moyen-Âge à travers une errance dans Dijon. Donc c'est vraiment une œuvre très forte qui a inspiré beaucoup d'artistes.
Je vous propose qu'on écoute une des valses nobles et sentimentales qu'il compose juste avant la guerre de 14, qu'il va faire. Hein, il va s'engager volontairement, Maurice Ravel.
Il va absolument tenir à s'engager. C'est très intéressant aussi d'avoir les valses nobles 1911 et ensuite la valse qui a été composée après la Première Guerre. 1920, oui. Et il a été quasiment paralysé. Il voulait absolument s'engager, mais il n'a pas été accepté parce qu'il était trop petit, trop maigre, trop faible. Et il voulait absolument, il ne pouvait rien faire d'autre, il n'a quasiment pas pu composer du tout.
Pendant la guerre de 14, comme les peintres n'ont pas pu peindre.
Exactement.
On écoute cette valse noble et sentimentale de 1911. Je rappelle que vous serez le 25 mars à la Philharmonie de Paris, vous jouerez la Rhapsody in Blue de Gershwin, qui l'a connu, hein, puisqu'il est allé Ravel aux États-Unis, il a rencontré Gershwin et il connaissait la Rhapsody in Blue.
Et la Rhapsody in Blue date de 1924, mais c'est très drôle puisque tout fait écho et en effet il l'a rencontré. Gershwin voulait absolument demander à Ravel de lui donner des cours d'orchestration parce que Ravel est quand même le plus grand orchestrateur de tous les temps. Et Ravel évidemment a refusé, il était même un peu fâché.
Il a dit de continuer à faire
de faire du Gershwin et pas essayer de faire du Ravel.
Et le 26 mars vous serez au bal de la rue Blomet, c'est une nouvelle salle.
Absolument.
Et cette fois vous jouerez du Ravel et du Debussy par la même occasion.
Exactement, 1920 aussi, 1900.
On écoute donc un autre extrait de votre album Des Antiques aux Démons, c'est une des valses nobles et sentimentales.
Europe 1 Social Club,
21h-22h,
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce soir avec Hélène Tisman, avec Julien Barré et avec Alexandre Jevakov qui est historien. Vous publiez La guerre civile russe, plus de 650 pages chez Perrin pour une page d'histoire peu ou mal connue des Français. Il y a seuls les lecteurs du Docteur Jivago connaissent la guerre civile russe ou ceux de Corto Maltese en Sibérie.
Voilà, qui sont d'excellentes références.
Voilà, ou Des Temps Sauvages de Joseph Kessel.
Absolument,
puisque lui-même a été là-bas juste après la Première Guerre mondiale en tant que aviateur. Il s'est retrouvé à Vladivostok, là où il y avait énormément des ressortissants des pays alliés qui étaient là.
Il y a également une autre bande dessinée chez Glénat que je recommande, qui s'appelle Nuit Blanche, en une demi-douzaine de tomes. Et effectivement, une partie se place à Vladivostok avant de se retrouver à Shanghai, puisque il y a eu des immigrés russes blancs à Shanghai qui ont fait l'essentiel de la police shanghaïenne dans les années 20 et 30.
Alors que leur cousin était chauffeur de taxi à Paris.
Alors que leur cousin était chauffeur de taxi, notamment à Paris. Oui.
Je rappelle d'ailleurs que vous êtes membre de l'Union de la noblesse russe, que vous présidez le cercle de la marine impériale russe, que vous n'êtes donc pas totalement neutre sur ce sujet.
Vous
descendez du prince Jevakov, qui est d'ailleurs cité dans ce livre. Mais évidemment, on peut faire de l'histoire tout en appartenant à un camp. Sinon, on ne pourrait pas faire de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Absolument. Voilà. Il vaut mieux même être objectif si on veut faire de l'histoire.
Alors quand commence-t-elle cette guerre civile qui va quand même faire 10 millions de victimes? Alors 10 millions de victimes, à la fois les combats, mais aussi la maladie, la terreur.
La terreur.
Il y a une terreur rouge, il y a une terreur blanche. Quand commence-t-elle? Est-ce qu'elle commence dès la révolution de février qui provoque l'abdication du tsar et met Kerensky au pouvoir? Ou est-ce qu'elle commence en octobre à la suite du coup d'état bolchevique?
Sans être ni normand ni centriste, je peux vous répondre que c'est ni l'un ni l'autre. À mon avis, elle commence avec le retour de Lénine. En avril, vous savez que Lénine, quand se produit la révolution, est en Suisse. Il est très très surpris, comme tous les bolcheviks.
Oui,
et en fait, il revient en Suisse.
Trotsky est à New York. Oui.
Exactement. Les deux chefs bolcheviks, sont effectivement l'un en Suisse et l'autre sur le continent américain. Non, effectivement, vous le savez, Lénine retrouve la Russie grâce à l'aide allemande, puisque l'objectif des Allemands, c'est naturellement de casser le front.
C'est de faire que les Russes
effectivement cessent le combat et de pouvoir transférer une bonne partie des divisions sur le front occidental en France. Et donc pour moi c'est là que commence la guerre civile, parce que Lénine prend les choses en main et que Lénine a une vision extrêmement stratégique de prise de pouvoir avec des moyens qui sont les siens et pour lesquels la guerre civile, qui est une guerre civile internationale, puisque dans la mentalité bolchevique et notamment celle vue par Lénine et du point de vue là, il est d'accord avec Trotsky, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de territoire, il y a un monde qui est destiné à devenir révolutionnaire sous la conquête du prolétariat.
Il y a donc une guerre de classe.
Il y a une guerre de classe, et c'est-à-dire il y a des ennemis de classe qui sont très très vite désignés. Les seuls bons sont les ouvriers et les paysans pauvres, et tout le reste, les intellectuels, l'élite sociale, les officiers, les prêtres, tout le reste sont des ennemis de classe.
Sauf s'ils sont révolutionnaires.
Sauf s'ils sont révolutionnaires. Tout à l'heure, vous laissiez entendre que le fait d'être né dans une famille aristocratique générait obligatoirement une prise de position. Il faut se souvenir que le prince Kropotkine, qui fut un anarchiste depuis le tendre âge, était un prince et qui était passé par le corps des pages, qui était l'une des formations les plus élitistes de l'Empire russe. Comme
et
quoi,
nous-mêmes, on a eu Philippe Égalité, qui a voté la mort du roi.
On peut être né dans une famille aristocratique et avoir des idées extrêmement progressistes, pour utiliser un terme contemporain.
Alors généralement, quand on pense à la guerre civile russe, qui dure donc de 1917 à 1920, grosso modo, on se dit que c'est entre les rouges et les blancs. Les rouges sont les bolcheviks, les blancs ce sont les tsaristes, mais en même
les
temps...
Communément, on dit que c'est les tsaristes, et en fait, les blancs sont les anti-bolcheviks.
Alors justement, la question que j'allais vous poser, c'est comme les bolcheviks sont une toute petite minorité à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils font un coup d'État et pas une révolution, et que les tsaristes purs et durs sont une toute petite minorité aussi, où se situent tous les autres, les paysans, les bourgeois
Les paysans qui font l'essentiel de la population russe, c'est grosso modo 80% de la population, eux, ils n'ont qu'une envie, c'est que la guerre mondiale s'arrête, qui récupère les terres, puisqu'effectivement, depuis la fin du servage en 1861, ils s'attendent à devenir propriétaires. Et donc, le combat des deux camps, rouges et blancs, c'est essayer de les attirer à eux. Et de ce point de vue-là, les rouges ont un avantage, puisqu'effectivement, ils annoncent très très vite la fin de la guerre mondiale et la distribution des terres. Mais en fait, ils sont moins bons, puisque effectivement, pour des raisons d'alimentation, de fourniture, ils deviennent très très méchants, pour utiliser un terme simple à l'égard.
Ils piquent tout ce que les paysans produisent.
Ils piquent tout et ils y vont pas avec le dos de la cuillère, puisque la pratique bolchevique n'est pas effectivement une pratique dans la douceur ni dans l'arrondi. Et donc effectivement, il y a une véritable guerre paysanne, il y a de véritables guerres paysannes, et vous y indiquer la fin de la guerre civile en 20. En fait, moi, j'ai tendance à la prolonger même jusqu'en 22. Et en 21, il y a des révoltes paysannes dans les provinces centrales autour d'une ville qui s'appelle Tambov. Et il y a effectivement des dizaines de milliers de paysans qui sont massacrés par un homme dont on entendra ensuite parler, qui s'appelle Tukhachevski, qui est lui-même né dans une famille aristocratique, mais qui devient un officier de l'armée rouge.
Le maréchal de
Le futur
Staline,
maréchal stalinien.
Alors, qui contrôle quoi en Russie? C'est parce que tel que vous le décrivez dans ce livre, on se dit les bolcheviks ne contrôlent que Moscou et Pétrograd quasiment.
Oui, effectivement.
Et tout autour, alors il y a les étrangers, il y a les armées étrangères, il y a les Français et les Anglais qui sont au nord, il y a les Allemands qui sont à l'ouest, puis au sud, en Crimée, en Ukraine, il y a les Cosaques, c'est-à-dire les Blancs qui sont sur la Volga, les bolcheviks, au fond, sont encerclés. On se dit, non, aucune chance, normalement.
Non, les bolcheviks sont effectivement encerclés. Ils sont dans une espèce de cœur qui est en même temps le cœur de la centrale, puisque c'est effectivement là où se trouve Moscou, la nouvelle capitale, et Petrograd, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale. Et c'est là où, effectivement, il y a énormément de population, il y a énormément de ressources industrielles. Et donc, en plus, c'est un bloc compact, alors que les fronts anti-bolcheviques, les fronts blancs, sont des fronts séparés et qui sont en périphérie. Donc c'est vrai que d'un point de vue tactique, ils sont à la fois encerclés, mais ils peuvent compter sur ce bloc, je reprends l'image, qui est effectivement très très utile pendant la guerre. Il faut aussi ne pas oublier que on n'a pas d'internet, on n'a pas de téléphone portable, donc les liens entre le front sud et le front ouest n'existent pas.
21h, 22h.
Europe 1 Social Club.
You kids with your vintage music coming through satellites while cruising.
crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy.
Fait mes quatre premiers albums pour moi, mais celui-ci est pour mes fans. Elle ajoute, pour commencer, tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour. All you need is love. Lana Del Rey et son clin d'œil aux Beatles avec Love sur Europe 1, la chanson qui sert d'introduction à son cinquième disque actuellement en pleine préparation.
Europe 1 Social Club.
21h, 22h.
Frédéric Tadei.
Nous sommes toujours avec Alexandre Jevakov qui nous raconte la guerre civile russe. Le livre vient de paraître chez Perrin. Il fait plus de 650 pages. Alors,
j'espère, pardon, le fait de citer 650 pages,
que ça
va
pas. Sérieux.
C'est sérieux, mais j'espère que ça va pas donner l'impression aux lecteurs potentiels que oulala, oulala.
Pas du tout, je l'ai dévoré.
Voilà, vous êtes trop bon.
Et quel rôle ont joué la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis?
Alors, un rôle considérable, puisqu'effectivement, quand se produit la fameuse révolution de février qui met fin à l'autocratie impériale, les Français et les Anglais sont les alliés de l'Empire russe, et donc la crainte des deux capitales est rejointe bientôt par les Américains, c'est effectivement que les Russes quittent le terrain militaire.
Ils arrêtent la guerre.
S'arrête. Donc effectivement, toute cette politique y compris ensuite au début de la phase bolchevique, quand les bolcheviques prennent le pouvoir en octobre 17, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de traité de paix avec les Allemands. On sait que ce projet n'aboutit pas, puisque Lénine, contre la volonté d'une bonne partie de son camp, signe le camp de Brest-Litovsk. Et pendant quelque temps, il y a des manœuvres que j'essaie de raconter, qui sont très compliquées, mais que j'essaie de raconter de manière aussi facile à comprendre par des non-spécialistes. Trotsky est à la manœuvre, et Trotsky est un très habile négociateur. Il fait croire à ses interlocuteurs français, anglais et américains qu'il va s'allier à eux. Et en fait, tout ça, c'est de la tactique et du leurre. Et très clairement, l'objectif des Rouges n'est absolument pas de s'allier aux Alliés. Et ensuite, les Alliés comprennent qu'il y a un risque qui peut dépasser les frontières russes, qui est le risque de la propagande bolchevique de la Révolution mondiale. Et donc les Anglais, les Français et les Américains, chacun à leur manière, vont essayer d'aider les forces anti-bolcheviques. Ils vont essayer de les aider sans jamais oublier leurs propres intérêts, puisqu'encore une fois, ils ont des intérêts économiques, ils ont des intérêts géostratégiques, et ces trois capitales ne s'oublient pas dans cette affaire-là. Sans parler des Japonais.
Les Japonais, puisqu'il y a eu la guerre russo-japonaise 12 ans auparavant, et puis il y a les Tchèques, il y a la Légion tchèque.
Voilà, les Japonais sont quasiment 70 000 dans la Sibérie orientale, ce qui est naturellement un contingent considérable, et les Japonais à ce moment-là essaient de faire ce qu'ils vont réussir beaucoup plus habilement après avec la Chine, c'est-à-dire ils veulent mettre sous contrôle, sous protectorat nippon, toute la partie de la Sibérie orientale. Quant aux Tchèques, les Tchèques se sont retrouvés là un peu par hasard, parce qu'effectivement, les Tchèques étaient à ce moment-là sujets de l'Empire austro-hongrois. Une partie des Tchèques, qui sont des Slaves, passent dans le camp russe, et les Russes font en sorte de créer une armée tchèque. Et ensuite, après la Révolution, la Tchécoslovaquie est créée, et les Français sont à la manœuvre pour faire venir les Tchèques, pour les transférer de la Russie via la Sibérie. On imagine les périples que ça peut représenter.
Et ils vont jouer un rôle très important dans cette guerre civile.
Ils jouent un rôle parce que finalement, ils restent sur le terrain. Ils sont intellectuellement assez proches des socialistes révolutionnaires. Et donc, ils jouent un jeu assez compliqué. Et puis surtout, ils tiennent le transsibérien, qui est ce train fameux qui relie l'Europe, la Russie de l'Ouest à la Sibérie et donc à l'Extrême-Orient. Et donc, ils jouent un rôle très très important avec l'épisode tragique de l'amiral Kolchak.
Qui
est le chef des Blancs en Sibérie et qui donc se retrouve finalement trahi en quelque sorte, puisque théoriquement les Alliés l'avaient mis sous protection alliée, et donc il est transféré au camp rouge avant d'être fusillé sans aucun jugement.
Et ce sont les Tchèques qui étaient à la manœuvre.
Et les Tchèques l'ont aidé avec un général français qui s'appelle Janin, qui n'a pas joué dans cette affaire un rôle extrêmement glorieux.
Alors vous parliez du transsibérien, les trains blindés jouent un rôle considérable pendant cette guerre civile. On le voit d'ailleurs dans Corto Maltese en Sibérie, ça se passe toujours dans les trains, le train de l'amiral Kolchak,
le train de Trotsky,
le train de l'Ataman Semenov, très important aussi dans toute cette guerre civile. Les trains blindés et la question juive. Vous dites que la question juive joue un rôle très important parce que à la fois les juifs sont considérés comme des révolutionnaires, ce sont les bolcheviques, on va même les accuser d'être parmi les tchéquistes qui torturent les Ukrainiens pendant cette guerre civile, et en même temps ils sont les victimes des pogroms des tsaristes, des forces tsaristes. Alors qu'en est-il exactement? Ça a l'air d'être très important.
C'est effectivement assez compliqué, parce qu'effectivement, une bonne partie des chefs bolcheviques sont israélites. Il y a effectivement dans l'armée blanche un a priori anti-israélite très, 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 très marqué, à tel point qu'on refuse que l'israélite devienne officier ou même s'engage comme soldat. Et effectivement, dans la partie qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, il y a effectivement ça tombe de pogrom. Alors, l'essentiel des pogroms, pour que les choses soient claires, ne sont pas du fait des armées blanches, ils sont en fait des nationalistes ukrainiens, ce qu'on appelle les hommes de Petlura. Voilà. Donc ensuite, mais ceci étant, ça ne solutionne pas le problème. Les Blancs, effectivement, n'ont jamais pris de position officielle anti-israélite, mais effectivement, de fait, il y a eu des pogroms commis par les armées blanches, à Kiev notamment, et dans d'autres villes de la région ukrainienne. Et ce qui, naturellement, a posé un problème, puisque, effectivement, tant en France qu'en Angleterre et encore plus aux États-Unis, il y a effectivement des Israélites influents et qui effectivement avaient tendance à considérer que puisque les Blancs maltraitaient leurs congénères, les Russes israélites, effectivement, il fallait ne pas traiter avec les Blancs, et ce qui naturellement n'a pas facilité la cause des Blancs d'un point de vue international.
Est-ce que les bolcheviks ont failli être battus pendant cette guerre civile?
Alors, moi j'ai beaucoup discuté avec toute une génération de nouveaux historiens russes qui sont apparus après la fin de l'URSS, qui ont pu travailler dans les années 90 sur des archives qui étaient jusqu'alors inédites. Et la question que vous posez peut les opposer. C'est-à-dire certains considéraient que les Blancs pouvaient gagner et d'autres considéraient que les Rouges n'avaient aucune chance de perdre. Moi, je serais plutôt sur cette position-là parce qu'en fait, les Rouges, notamment Lénine et Trotsky, ont compris ce qu'était la spécificité d'une guerre civile, alors que les généraux Blancs, qui n'ont pas compris ce que voulait dire comment conduire une guerre civile, comment en termes de communication, comment en termes de propagande, comment en termes politiques, il fallait conduire cette guerre civile. Et donc, de mon point de vue, même si sur le terrain, les Blancs, en un moment, ont menacé les armées rouges et sont arrivés pas très très loin de Moscou, je pense que sur le plan idéologique et sur le plan politique, les Blancs n'avaient pas de perspective de victoire.
Hélène Tisman, quand vous écoutez tout ce que nous raconte Alexandre Jevakov, vous pensez à quelle musique? Parce que c'est une période très très riche hein, à l'époque musicalement, oui, c'est magnifique d'ailleurs. La valse qui clôture votre disque de Ravel.
Mais je pensais aussi à des compositeurs russes.
Mais on parlait de la valse tout à l'heure, c'est exactement à cette époque-là. Mais alors donc, vous pensez à qui?
Éclatant de tous bords. Moi je pense à Scriabine, mais... Tchaïkovski aussi, qui a d'ailleurs influencé Debussy. Mais je reste sans mots devant.
Non, indépendamment des compositeurs, il y a eu énormément de. La guerre civile dans les deux camps a provoqué des chansons. Et d'ailleurs, un certain nombre de chansons sont passées allègrement du camp blanc au camp rouge et réciproquement. On changeait naturellement les paroles, mais pour le reste, les refrains étaient pris. Et donc, c'est vrai que la tradition russe est une tradition extrêmement musicale. Vous avez cité Tchaïkovski, Scriabine, on peut citer d'autres. Mais effectivement, la musique a toujours accompagné, et même quel que soit le tragique de cette guerre civile, la musique est restée. Il y a un certain nombre de chanteurs qui ne sont pas obligatoirement très connus, mais par exemple Vertinsky, qui était un très grand chanteur de l'époque, ou bien la Plessitskaya, qui ensuite a été connue, puisque c'était ensuite la maîtresse d'un officier qu'on a retrouvé dans l'enlèvement du général Miller en 1937. Tout ça, c'était des très grandes chanteuses, des grandes voix russes qui ont continué à chanter pendant la guerre civile, y compris à Odessa. Il y a eu des grands chanteurs et des grandes chanteuses qui ont continué à chanter. Donc,
c'est surtout qu'il y a beaucoup de tragiques temps.
Absolument.
La musique, c'est
mais
pas tellement que la musique est venue dans toutes ces tragédies. C'est-à-dire qu'elle est présente du début à la fin.
Absolument.
La guerre civile russe, le livre est d'Alexandre Jevakov. Il vient de paraître chez Perrin. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Des antiques aux démons, l'album d'Hélène Tisman consacré à Maurice Ravel est sorti sur le label Clart. Et je rappelle que vous serez le 25 mars à la Philharmonie de Paris pour interpréter Rhapsody in Blue de Georges Gershwin. Et le 26 mars au Bal de la rue Blomet, une nouvelle salle où cette fois vous jouerez du Ravel. Et enfin, le livre de Julien Barré, « Tu parles bien la France », un essai sur la langue française d'aujourd'hui, c'est paru chez Harmattan. Nous, on se retrouve lundi dans un instant. C'est Europe Nuit avec Pierre de Villeneuve.